France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info, bonsoir. À la radio, vous le savez, à la télévision, canal 27 de la TNT, sur vos tablettes, sur votre ordinateur, franceinfo.fr. Dans ce studio, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Judith Vintraube, reporter au Figaro Magazine. Bonsoir Gérard Leclerc, éditorialiste politique sur CNews. Bonsoir Alix Bouyaguet, rédactrice en chef de l'émission politique sur France 2. Guillaume Goubert, directeur de la Croix. Bonsoir. Et puis Patrick Le Yarrick, directeur du groupe L'Humanité et député européen. Bonsoir, soyez les bienvenus au sommaire des informés de France Info. La politique friction avec le retour de la gauche à la fête de l'UMA, le retour des syndicats dans la rue, les points de friction ne manquent pas. Emmanuel Macron sur tous les fronts, déplacement à Saint-Martin auprès des sinistrés de l'ouragan Irma, signature des lois de moralisation de la vie politique, de la com avec ou sans lit de camp. On verra ça. Et puis nous reviendrons bien sûr sur l'attribution des Jeux Olympiques d'été à Paris en 2024. C'est bon pour le moral, mais on se posera la question de savoir si on a les moyens de nos ambitions. On ouvre ces informés de France Info avec le retour de la gauche ce week-end à la Courneuve pour la fête de l'humanité dans les rues, avec aussi une série de manifestations qui ont commencé cette semaine. Mardi, il y en aura d'autres jusqu'à la mi-octobre. Est-ce que la gauche va pouvoir se rassembler? C'est la première question que je pose tout de suite à Patrick Le Yarrick.
Il serait souhaitable qu'elle puisse se rassembler. En tout cas, les électrices et les électeurs, les citoyens de gauche, sont prêts à se retrouver ensemble, comme on l'a vu mardi dernier dans les manifestations, comme on l'a vu à la fête de
l'humanité. À l'exception des Insoumis qui font bande à part.
À la fête de l'humanité. Non, qui y étaient mardi, ils étaient mardi dernier. Ils étaient à la fête de l'humanité avec d'autres, et comme ils seront vraisemblablement jeudi prochain également dans le mouvement, et eux-mêmes organisent, en tout cas, ils ont proposé une manifestation samedi prochain. Donc, ce qu'on appelle la gauche, ces citoyens de gauche, ça existe bien. Après, entre les forces politiques de gauche, compte tenu du dispositif que nous connaissons aujourd'hui, elles sont pas unies, elles ne parlent pas ensemble, en tout cas de mon point de vue, insuffisamment ensemble, mais ce travail est possible.
Vous étiez à la Courneuve, vous avez donc entendu Pierre Laurent appeler au rassemblement cet après-midi.
Nous avons l'ambition de mettre en échec une des plus grandes offensives patronales contre le monde du travail. Dans ces circonstances, le chacun pour soi n'a aucun sens. Chacun est légitime pour prendre des initiatives. L'essentiel est que les efforts convergent. Nous serons pour notre part de tous les rendez-vous à même de favoriser la montée en puissance du mouvement, avec pour seul souci de renforcer le mouvement d'ensemble, de le faire converger, de l'étendre, de l'enraciner.
Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, Alix Bouyaguet. Alors, est-ce que la gauche, qui a été dispersée, comme la droite, lors des deux dernières élections présidentielles et législatives, est-ce que la gauche commence à se rassembler ou c'est juste un appel au rassemblement?
On va dire que c'est un peu tous contraints en ce moment-là. Et il l'a dit, le chacun pour soi n'a aucun sens, mais en même temps, le divorce est totalement prononcé avec Jean-Luc Mélenchon, qui poursuit aujourd'hui, fait cavalier seul. Donc, finalement, la seule façon d'avoir on va dire une deuxième gauche qui puisse exister, c'est une alliance entre Benoît Hamon, entre les écolos et entre le Parti communiste. Seul moyen, c'est ce front commun pour essayer de faire porter leur message face à un Jean-Luc Mélenchon qui est aujourd'hui tout-puissant, omniprésent et qui, lui, ne cherche absolument pas aujourd'hui à tisser des liens ou à tendre la main.
Judith Vintraube, Le Figaro.
Moi, j'ai quand même l'impression que malgré les appels à l'union, Jean-Luc Mélenchon considère qu'il n'y a qu'une place à la tête de la gauche que je qualifierais de anti-libérale pour le moins, et largement anti-libre-échange. C'est comme ça qu'elle se définit, donc avec des dimensions souverainistes et anticapitalistes, même si le PC n'est pas complètement anticapitaliste. Donc il n'y a qu'une place, elle est pour lui. Et la meilleure preuve, c'est les noms d'oiseaux qu'ils se sont échangés, chacun a pu le voir. C'est pour ça que les appels à l'union ont quelque chose de surréaliste.
C'était surtout samedi,
Oui,
surtout samedi, via les réseaux sociaux.
Ça a quand même continué aujourd'hui, y compris dans dans le discours de Pierre Laurent. Et puis, on se souvient qu'en mai, c'est le Canard Enchaîné qui avait sorti ça. Jean-Luc Mélenchon avait balancé sur un SMS à Pierre Laurent où il lui avait dit « Vous êtes la mort et le néant ». Donc, dire après ça que tout peut s'arranger, j'ai du mal à y croire.
Gérard Leclerc.
Gauche, le retour, non. Pour l'instant, c'est gauche année zéro. On a rarement
jamais vu. Il fallait mettre un point d'interrogation à gauche, le retour.
Je vous dis, c'est plutôt gauche année zéro. Pour l'instant, on n'a jamais vu la gauche à ce point divisé. Les socialistes ont totalement disparu. Ils se déchirent entre eux. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui même, encore a parlé d'une direction du Parti communiste en perdition. Terme qu'il a employé, en perdition. Paul Laurent avec des termes beaucoup plus aimables, enfin, quand même dit, effectivement, il a souligné le peuple est là, lui, sous-entendu, Jean-Luc Mélenchon n'y est pas, etc. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est le paysage est un champ de ruines, quoi.
Guillaume Goubert.
Oui, effectivement, je vais aller dans le même sens que Gérard. Moi, j'irais la bonne nouvelle, d'une certaine façon, c'est que ça peut pas aller plus mal, donc ça va aller mieux. Je veux dire, actuellement, on peut difficilement...
Il faut qu'il y ait quand même une force d'opposition qui se reconstruise. On peut pas laisser un champ de ruines. Tout est à faire.
Tout est à faire.
Donc, il y a une place pour le Parti communiste, pour le Parti socialiste. Il faut refaire une union de la gauche ?
Non, je crois pas qu'il vaille refaire l'histoire. Il faut inventer autre chose, mais dans cette invention autre chose, le Parti socialiste, comme le Parti communiste, ont besoin d'un travail sur eux-mêmes extrêmement important, c'est-à-dire il faut reconstruire une orientation politique adaptée à ce moment. Parce que le Parti socialiste, il a fauté de considérer qu'il fallait mener des politiques...
Le précédent quinquennat
Oui, mais c'est devenu aussi un peu leur thèse. C'est-à-dire ils ont considéré, à la différence des communistes, qu'on ne pouvait pas changer la société, c'est-à-dire le mot d'ordre de François Mitterrand, abattre le capitalisme, ne pouvait plus marcher, et donc il fallait adapter et faire des réformes les moins mauvaises possibles. Ce n'était pas tout à fait le cas dans le précédent quinquennat. Et le Parti communiste, il a sans doute un travail à faire sur les conditions aujourd'hui qui permettraient d'unir les gens dans le cadre d'une société insérée dans une mondialisation capitaliste. Et quand un ouvrier d'une même multinationale, ici en Roumanie, aux États-Unis ou au Japon, sont exploités par la même direction d'entreprise selon les mêmes critères, ils sont aussi divisés parce qu'ils n'ont pas les mêmes rémunérations et les mêmes conditions.
On va y revenir dans un instant en écoutant la position de Stéphane Le Foll pour le Parti Socialiste, ancien ministre et porte-parole du gouvernement, vous le savez. Mais d'abord, priorité à l'info, il est 20h10 sur France Info, l'info avec Marc Potvin.
La Guadeloupe est désormais en alerte orange au cyclone. Dès demain, Météo France prévoit une forte houle, des pluies importantes et des vents violents. La tempête tropicale Maria est en cause. Elle se rapproche des Antilles et pourrait se transformer en ouragan de catégorie 2, voire 3. Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont-elles placées en vigilance jaune au cyclone. Un suspect entre les mains des enquêteurs après le meurtre d'une femme enceinte dans les Pyrénées-Atlantiques. Son compagnon l'a retrouvé ligotée et sans vie mercredi à Ustaritz. Cette femme de 23 ans a été violée, indique le procureur de la République de Bayonne. L'homme arrêté aujourd'hui est un SDF qui souffre de graves troubles psychologiques. Ce soir, il est en garde à vue. Le niveau d'alerte terroriste abaissé au Royaume-Uni, conséquence des progrès de l'enquête sur l'attentat de vendredi dans le métro de Londres. Parmi les dernières avancées, l'interpellation d'un deuxième homme. Deux perquisitions sont menées dans la banlieue ouest de la capitale britannique, dans des villes proches de l'aéroport d'Heathrow. Madrid sévit un peu plus face aux indépendantistes catalans. Les gendarmes espagnols ont saisi aujourd'hui plus d'un million de tracts, dépliants et affiches, du matériel de campagne en vue du référendum d'autodétermination. Scrutin interdit qui doit avoir lieu le 1er octobre. Et puis en tennis, la France qualifiée pour la finale de la Coupe Davis. Joe Wilfried Tsonga a offert le point de la victoire face à la Serbie. Il s'est imposé en 4-7 face à Dusan Lajovic, 2-6, 6-2, 7-6, 6-2.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info ont parlé il y a quelques secondes de cette gauche qui est en reconstruction totale, du Parti Socialiste jusqu'au Parti Communiste. On va entendre ce que disait dans l'émission Questions politiques sur France Info à la mi-journée Stéphane Le Foll, l'ancien porte-parole du quinquennat François Hollande.
L'union ne se fera que s'il y a un grand parti social-démocrate capable de rassembler et d'assumer les responsabilités gouvernementales.
Et on en est assez loin.
C'est ça. Et donc, on en est à ce point-là. Alors, Jean-Luc Mélenchon, bien entendu, il veut surtout éviter cette réapparition, puisque par définition, c'est lui qui veut incarner cette capacité.
Mais
sauf qu'il n'en est pas capable. On a besoin de refaire un parti socialiste, de redonner une force centrale capable de gouverner. Parce que l'espoir, au bout du compte, de la gauche, c'est que la gauche arrive au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas y arriver.
Guillaume Goubert, Jean-Luc Mélenchon tout seul, il ne peut pas y arriver, dit Stéphane Le Foll, il faut reconstruire une gauche d'union.
Oui, effectivement, mais je ne crois pas que le PS puisse y arriver non plus. C'est ça, en tout cas, pas actuellement. Donc, il y a un énorme travail pour recréer de l'espace pour la gauche dans ce pays, pour recréer de la place pour une gauche de gouvernement.
Mais il faut un leader aussi.
Il faut un leader. Il ne semble pas que Jean-Luc Mélenchon ait la capacité à fédérer beaucoup de monde autour de lui.
Ni l'envie, d'ailleurs.
Ni peut-être l'envie, oui, vous avez raison.
Ce qui fait est extrêmement agressif. En fait, lui, il le décrit très bien. Jean-Luc Mélenchon, il est dans un face-à-face. Il y a l'incarnation de l'aile libérale du centre-gauche au centre-droit qui est Emmanuel Macron. Et face à cette aile libérale, il y a lui, Mélenchon, qui incarne la gauche antilibérale et anticapitaliste. Et il y a la place pour rien d'autre, ni au milieu, ni autour.
Alors, puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, il y a une belle passe d'armes, on peut dire, entre Pierre Laurent ce week-end et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, lui, qui était en déplacement politique sur l'île de La Réunion, et le leader de la France insoumise a répondu à Pierre Laurent en ces termes: communiste, je vous aime.
Les communistes sont toujours mes amis. Ils viendront par dizaines de milliers au rassemblement le 23. C'est pas un sujet pour moi. C'est pas parce qu'il y a une direction communiste en perdition qui s'accroche maintenant, qui ne s'exprime plus que contre moi. Mais les communistes, c'est pas un problème pour moi, c'est une solution. Ils ont toujours été dans l'action avec moi et ils savent que je les aime et les respecte dans ce qu'ils sont. Mais eux aussi, je dis, écoutez, respectez ce que je fais, quoi. C'est pas la peine de tout le temps être en train de dire pas de culte de la personnalité. Dès que je suis pas quelque part, tout le monde pleure parce que j'y suis pas.
Gérard Leclerc, ça pourrait faire une belle chanson, communiste, je vous aime.
Ouais, non, mais c'est très clair. C'est d'ailleurs à peu près le même état d'esprit vis-à-vis des socialistes. Il dit, les communistes, je les aime, mais la direction, c'est en perdition, c'est épouvantable, etc. Les socialistes, c'est pareil. Il a dit, le Parti socialiste, l'idée, c'est pas de remplacer. Il faut tuer le Parti socialiste et je prends leur place. Et il a encore parlé cette semaine en disant que c'était le zoo de France où il n'y avait pas de
gardiens,
etc. Et il en a en plus mis un coup particulier pour les proches de Benoît Hamon, en disant que les frondeurs, c'était exactement ce que les Français détestaient le plus. Alors que les frondeurs et Benoît Hamon ont essayé, sont tournés d'ailleurs beaucoup trop, à mon avis, au moment de l'élection présidentielle vers Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que Benoît Hamon a terminé à 6%. Mais lui, c'est pas son problème. C'est lui tout seul, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait tout à l'heure Gilles. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, son idée, ce n'est pas d'arriver au pouvoir dans une alliance en fédérant les gauches, c'est de représenter tout seul les gauches et d'accéder au pouvoir comme ça. Lui, représentant les gens, comme il dit, d'ailleurs vous avez remarqué, le même vocabulaire, c'est les gens face aux oligarchies qui sont au pouvoir et qui sont effectivement la meilleure représentation, Emmanuel Macron.
Alix Bouyaguet,
France Télévisions. Oui, il y a un problème de leadership. Qui est celui qui va pouvoir incarner, pousser la gauche? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pierre Laurent, ça fait un paquet de temps qu'il est là, il n'a pas explosé, on va dire, médiatiquement parlant.
Il n'a pas existé aussi dans la présidentielle, Pierre Laurent, c'est ça le problème.
Il n'a pas existé. Benoît Hamon est en train d'essayer, lui, il faut que ça passe par l'union. Donc on sait que, par exemple, pour les sénatoriales, il va essayer de faire des listes communes avec les communistes et les écolos. Donc lui, sa survie politique, elle se joue sur l'union. Et du côté des socialistes, bah, effectivement, on ne sait pas qui aujourd'hui incarne le Parti socialiste. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est la force autour de laquelle peut se reconstruire la gauche. Il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus de comment améliorer la vie des gens, quelles sont les propositions. Donc forcément, face à ce vide un peu sidéral des communistes, des écolos et puis du Parti Socialiste, ben, les regards se convergent tous vers Jean-Luc Mélenchon qui occupe magnifiquement la scène, on va dire.
Moi, je regarde Patrick Le Yarrick réfléchir et vous devez vous dire, c'est dur ce qui nous attend. Tout le monde cible Jean-Luc Mélenchon parce qu'il attire la lumière à lui.
Non, mais ça a toujours été dur. À propos de la remarque qu'a fait Alex sur l'explosion médiatique ou pas de Pierre Laurent, puisqu'elle travaille à France 2, je veux lui dire quand même que ce n'aurait pas, elle n'est pas responsable, mais Pierre Laurent n'a jamais été invité dans aucune émission de 2 heures, comme il en existe chez vous, des émissions de débat, de qualité d'ailleurs. Depuis Robert Rue, il n'y a pas eu de premier responsable communiste invité dans une telle émission. Maintenant, sur la question, il y a deux thèses qui se confrontent. Jean-Luc Mélenchon, sa thèse, c'est ce qu'il appelle fédérer le peuple et qu'il adosse à une théorie qu'il appelle le populisme de gauche, qu'il a été cherché à partir d'expériences latino-américaines. La question de ce qu'on appelle les citoyens, les citoyennes de gauche, elle est sans doute plus complexe que ça. L'histoire française fait que il y a différentes opinions dans la gauche. Je ne parle pas de la question des partis. Je parle des gens, des citoyens.
À droite, c'est pareil.
Et à droite, c'est pareil, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Et il y avait des forces politiques qui fédéraient plus ou moins en organisant les gens dans des partis et puis à l'occasion d'élections. L'élection présidentielle telle qu'elle est faite fait totalement exploser ça, puisqu'elle pousse de toute façon à une sorte de...
bipolarisation.
Pas qu'une bipolarisation désormais, on a une tripolarisation. Il y a eu là un espèce de cyclone qui est passé lors des dernières élections présidentielles.
C'est l'homme qui prime sur le débat d'idées.
Et tout,
l'homme ou la femme.
Et tout découle de ça par la suite, dont ce que dit Alix, dont la question de la présence dans les médias.
Voilà.
Et donc, il faut prendre en considération l'ensemble des choses. Mais il n'est pas dit que la thèse de fédérer le peuple sans tenir compte de la diversité des citoyennes et des citoyens d'opinion de gauche puisse marcher. La fête de l'humanité le montre bien. L'appétit de débat est considérable. J'ai été moi-même surpris du nombre de gens qui vient dans des débats pluralistes, s'informer, essayer de faire leur miel de ce qui se dit.
On va continuer à parler politique dans ces informés de France Info. On va parler de la communication d'Emmanuel Macron tout au long de cette semaine. On l'a vu auprès des sinistrés, on l'a vu aussi auprès de la délégation française qui a remporté cette candidature olympique ville haute pour 2024 à 20h20 sur France Info. L'info tout de suite avec Marc Potvin.
La tension baisse d'un cran au Royaume-Uni. Le niveau d'alerte terroriste passe de critique à grave. Ça fait suite aux avancées dans l'enquête sur l'attentat de vendredi dans le métro de Londres. 2 perquisitions ont lieu en ce moment à proximité de l'aéroport d'Heathrow. La nuit dernière, un deuxième homme a été interpellé. Lou Bureau, de retour en France. Le journaliste est arrivé ce matin à l'aéroport de Roissy. Il se dit très soulagé. Tout n'est pourtant pas réglé. Lou Bureau fait toujours l'objet de poursuites en Turquie. Les autorités l'accusent d'appartenir à une organisation terroriste, un groupe de combattants kurdes syriens qu'il a suivi lors d'un reportage. Pierre Laurent tacle Emmanuel Macron à la fête de l'humanité. Dans son discours de clôture, le secrétaire national du PCF est revenu sur une déclaration du président. Emmanuel Macron a estimé que les Français n'aimaient pas les réformes. Ce qu'ils n'aiment pas, ce sont vos réformes, répond Pierre Laurent. Une déclaration qui refroidit les partisans de la PMA pour toutes les femmes. Le ministre de l'Intérieur estime que son ouverture aux lesbiennes et aux célibataires n'est pas une priorité. Pour Gérard Collomb, il y a des choses plus importantes que l'accès à la procréation médicalement assistée. Régler le problème du chômage, par exemple. Le débat sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes devrait s'ouvrir l'an prochain. Et puis une fête des sports sur le modèle de la fête de la musique, c'est ce que propose aujourd'hui la ministre des Sports. Cette fête aura lieu tous les 13 septembre, date où Paris a remporté les Jeux Olympiques de 2024.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
On va parler de la communication du président de la République dans un instant. Je voyais que sur ce plateau, la PMA, la déclaration du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb,
ben
vous
oui,
faisait réagir, mesdames, Judith Vintraube,
Le Figaro. Il y va bien légèrement. Enfin, à dire qu'il faut d'abord régler le chômage, c'est à peu près renvoyer la question de la PMA au calendrier grec, puis il le dit gentiment, sans agresser personne, mais enfin, c'est quand même la négation de l'engagement qu'avait pris Emmanuel Macron pendant la campagne d'ouvrir au moins le débat.
Ouais,
c'est un peu le signe quand même avant-coureur que ce débat fait un petit peu peur à l'Élysée, hein, au-delà
c'est-à-dire qu'à Lyon, on est Gérard Collomb,
voilà, et qu'effectivement, il y a quand même un paquet de réformes qui sont aujourd'hui sur la table. Est-ce que c'est bien nécessaire, à mon avis, pense-t-on, du côté de l'Élysée,
d'ouvrir une fracture, pas été bien cadré par le ministre de l'Intérieur.
La société, non, je pense que la manif pour tous a laissé quand même quelques traces.
Oui, mais c'est justement, je trouve, en contradiction avec la stratégie de l'Élysée qui consiste justement à multiplier les réformes, les annonces.
Les annonces, oui.
Avec toujours cette idée que quand la cible bouge, elle est plus difficile à atteindre et que ceux qui sont aujourd'hui en train de se battre sur le code du travail, ça y est, on est déjà passé. Enfin, du moins, le gouvernement souhaiterait qu'on passe déjà à autre chose et annonce ou d'une série de réformes sur la formation professionnelle, sur les retraites, sur les cheminots, etc., etc. Donc c'est bizarre d'entendre un ministre dire on peut pas faire deux choses en même temps. Il faut d'abord régler le problème.
Alors le chômage, la croix.
Il faut se souvenir quand même qu'Emmanuel Macron s'est toujours montré très prudent sur ce sujet-là. Il avait fait des déclarations marquant un peu de compassion vis-à-vis d'une partie des manifestants anti-Louis Taubira, ce qui avait quand même fait un peu tousser un certain nombre de personnes. Et il avait dit clairement avant l'élection que personnellement il était pour cette réforme, mais qu'il ne la ferait que si les conditions étaient réunies dans la société. Après les déclarations de Marlène Schiappa, les réactions que ça a suscité, on peut penser que le ministre de l'Intérieur a fait passer un message comme quoi le moment n'est pas encore tout à fait venu et les conditions ne sont pas encore vraiment réunies.
On va évoquer tout de suite la communication du président de la République cette semaine. Il y a eu beaucoup de séquences, notamment cette séquence auprès des sinistrés, vous l'avez vu, des sinistrés de l'ouragan Irma sur l'île de Saint-Martin. Le président, qui a mouillé la chemise, qui est allé au contact des sinistrés, a également été pris à partie. Vous allez voir.
Moi, j'ai l'impression, sincèrement, monsieur, et je ne vais pas dire monsieur le président parce que je ne peux pas.
Mais...
Après ça, et c'est pas parce qu'on a un dialogue aujourd'hui.
Mais c'est pas
Monsieur
vous
Macron,
ce que vous voulez.
Monsieur Macron, pour moi, de l'extérieur, et je suis peut-être pas la seule, pour moi, vous êtes sur une tour d'ivoire et vous descendez de temps en temps.
Moi, c'est...
Mais j'avais besoin de vous le dire entre quatre yeux, sincèrement.
Je suis là pour ça aussi.
Parce que je ne mens pas.
Mais moi non plus, donc je suis là aussi.
Et c'est pour ça que je veux que vous reveniez dans un an et que vous
revoyez. Mais je voudrais même revenir avant un an, parce que ça fait
tard. Dans six mois.
Ouais,
dans six mois.
Parce que je reviens avant.
Six mois. Et je serai là. Je serai là.
Lila.
Mais croyez-moi, monsieur Macron, dans six mois, si c'est construit, je vais vous appeler monsieur le président. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pour moi, monsieur Macron, Emmanuel.
Je le ferai.
Vous avez tout intérêt, parce que je suis une chieuse aussi.
Pas pour que vous... Et si, est-ce que je peux plus me permettre de vous dire que ça se voit un peu?
Ah bah...
Mais je ne vous demande pas de changer pour autant.
Mais je ne changerai pas à 43 ans, croyez-moi.
Voilà, Patrick Le Yarrick, difficile, hein, le président se devait d'aller au contact des sinistrés de l'ouragan.
Oui, je pense qu'il a bien fait d'y aller, mais d'un autre côté, ce qui est vrai aussi, c'est que se balader en costard-cravate auprès de gens qui sont dans ce malheur et cette désolation, je crois qu'il y a...
Non, il y avait la chemise cravate.
Là, il faisait très chaud, mais il est quand même coutumier d'opérations comme celle-là. Donc, la question qui est posée, ce qu'a dit un peu la dame d'ailleurs, c'est maintenant comment qu'on crée les conditions d'une reconstruction durable sans que ça ne pèse sur les populations qui, je rappelle, ce sont les plus pauvres qui ont souffert le plus.
Alors, la com de l'Élysée a fait passer un message comme quoi le président allait dormir sur un lit de camp. On a appris dans le courant de la semaine, je crois que c'est grâce au journal Libération, eh bien que le président avait dormi dans un bon lit, une chambre prêtée, offerte par un gendarme et son épouse.
Il n'était d'ailleurs pas contente qu'on le raconterait de son lit de camp.
Oui, enfin, tout ça, c'est...
Oui, mais c'est la com' de l'Élysée qui a donné une information.
Moi, comme ça, vu de l'extérieur, je trouve qu'il est quand même très, très bon dans ce genre de situation. C'est vrai qu'il sait parler aux gens, qu'il a, on l'a
proximité.
Vu à Whirlpool, etc. Il sait faire, quoi. Cela dit, c'est tout à fait... Heureusement qu'il y est allé. S'il n'était pas allé, qu'est-ce qu'on aurait entendu? Donc, tout ça, c'est du passage et des choses qui sont obligatoires, qu'il doit faire. Il le fait plutôt bien. Mais l'important, c'est effectivement qu'est-ce qui se passera après et où en seront les deux îles dans dans quelques mois, quoi. Est-ce que cette fois-ci, moi, les critiques qu'il y a eu avant sur on n'a pas préparé, etc., je trouve que c'est un petit peu là aussi la mauvaise polémique parce que c'était très compliqué. On peut pas, les ouragans, c'est pas comme les trains de la SNCF. Encore que des fois, il y a des retards maintenant, les trains de la SNCF, on peut pas tout prévoir. Mais maintenant, l'important, c'est ce qui va se passer maintenant. C'est là-dessus qu'il faudra le juger, pas
sauf,
sur ces.
Sauf Gérard, il y a la les informés des publics, quand même. De France Info continue dans un instant, juste après un point météo, après le journal de 20h30. On continuera à parler de la communication du président, notamment une petite signature à l'Élysée, façon Donald Trump.
Lundi 18 septembre, journée Maria Callas sur France Musique. Revivez le destin hors norme de la diva à l'occasion des 40 ans de sa disparition et réécoutez sa voix légendaire de 7h à 23h. Ne manquez pas, lundi, journée Maria Callas sur France Musique et francemusique.fr.
France Musique, une radio de Radio France. France Infotrafic, avec Calipage, réseau de distributeurs conseils en papeterie et fourniture de bureaux. Rendez-vous dans un de nos magasins ou sur calipage.fr.
Élise Thibault, PC Mobilité de Radio France, dites-nous où se situe le gros point noir ce soir.
Et c'est compliqué en ce moment, Pierre, du côté de Montpellier, puisqu'on a un accident à hauteur de Juvignac en descendant vers Montpellier, à la sortie de l'autoroute A750 qui entraîne une demi-heure de bouchon. Ça va mieux ailleurs, notamment sur l'A7 à Montélimar et la Nationale 113 à Arles, bloquée tout à l'heure et qui roule à nouveau bien. Ça reste un petit peu compliqué en région parisienne, notamment sur l'A1 avant d'atteindre le périphérique ou encore sur la 13 quand vous venez de Normandie.
France Info Météo avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
On jette un coup d'œil sur le ciel de ce lundi matin avec vous, Jean-Michel Golinski, Météo France.
Pas d'évolution sur le plan des températures demain avec des valeurs de 3 à 5 degrés sous les moyennes. On notera également un air plus frais près de la Méditerranée. La barre des 20 degrés ne sera dépassée que sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Demain, le temps sec sera toute la journée pour le Languedoc et la Provence, mais sous un ciel voilé et avec du vent vers 70 km à l'heure. Après une matinée grise et humide, l'après-midi, on va apprécier le retour d'un ciel plus lumineux et sec de la Bretagne aux Charentes, du centre au Massif central et le long des frontières de l'Est. Du nord de la Loire à la frontière belge, vous allez conserver un peu comme ces derniers jours un régime d'averse entrecoupé d'éclaircies. Dans le quart sud-ouest, du Roussillon au sud de l'Aquitaine, les précipitations seront marquées au moins jusqu'à la mi-journée. Et sur la Corse, c'est l'après-midi que le ciel d'orage va donner de fortes averses.
Merci Jean-Michel, 20h30 sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info, Augustin Arrivé.
En attendant PSG Lyon à 21h, je vous rappelle les autres résultats de ce dimanche pour la 6e journée de Ligue 1 de football. 3 victoires à l'extérieur, Marseille a battu Amiens 2-0, Metz signe ses premiers points en surpassant Angers 1-0 et Nice devance Rennes sur le même score. La France jouera la finale de la Coupe Davis de tennis. Elle s'est qualifiée tout à l'heure contre la Serbie grâce à la victoire de Joe Wilfried Tsonga.
Je suis très content pour le groupe, pour l'équipe. On a fait ce qu'il fallait ce week-end pour passer. C'est le plus important. C'était une sacrée libération que de terminer sur ce premier simple. Je me suis régalé aujourd'hui. Je me suis vraiment régalé. D'autant plus qu'en face, j'avais un joueur qui jouait très très bien. J'ai dû vraiment avoir un niveau de jeu assez élevé pendant 2h30, 3h. C'est sûr que personnellement, c'est bien. J'ai gagné aujourd'hui, mais je crois que ça reste quand même le travail de tout un groupe. Et aujourd'hui, on est en finale de la Coupe Davis et je crois que on a tous envie de ramener ce saladier pour les Français et on va se donner à fond évidemment et essayer de se préparer de la meilleure des façons.
Joe Wilfried Tsonga et la finale, ce sera fin novembre contre la Belgique. Le retour en France de Lou Bureau, l'avion du journaliste, s'est posé à Roissy ce matin. Il dit ne pas avoir subi de violences physiques, mais des menaces, des intimidations. Il a été retenu prisonnier pendant 51 jours dans une prison turque accusée d'appartenance à la rébellion kurde. La mort d'un garçon de 13 ans dans une partie de chasse ce matin, c'était l'ouverture de la chasse en Vendée. L'adolescent ramassait un volatile quand il a reçu un coup de fusil dans la tête, c'était sur la commune de Triez. La Guadeloupe en vigilance cyclonique orange, une tempête tropicale se rapproche des Antilles en se rendant renforçant. Maria devrait devenir cette nuit un ouragan. Il atteindra l'île demain soir. Les prévisionnistes envisagent un passage à une centaine de kilomètres de Saint-Martin. Ouragan qui pourrait atteindre une catégorie 2 ou 3 sur 5. Les alentours de l'aéroport d'Heathrow intéressaient les enquêteurs de Scotland Yard aujourd'hui. C'est là-bas, à Hounslow précisément, qu'un deuxième suspect a été arrêté la nuit dernière. Pas loin non plus, à Stanwell, que la police procédait à des perquisitions ce midi, deux jours après l'explosion d'une bombe dans le métro de Londres. L'alerte terroriste a été rabaissée d'un cran cet après-midi au Royaume-Uni. 20 000 visiteurs à l'Elysée ce week-end, à peu près comme l'an dernier. Les journées du patrimoine ont attiré au total 12 millions de personnes en France. Là aussi, statistiques stables sur les quatre dernières années. C'est le moment de retrouver Pierre Neveu, 20h33, deuxième partie des Informés de France Info.
Les Informés, Pierre Neveu.
Les Informés de France Info, vous en avez l'habitude, c'est entre 20h et 21h sur France Info, radio, télévision, canal 27 de la TNT, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs, franceinfo.fr. On va continuer à parler de la communication politique du président de la République avec nos invités, Judith Vintrop, reporter au Figaro Magazine, Gérard Leclerc, éditorialiste politique sur CNews, Alix Bouyaguet, rédactrice en chef de l'émission politique sur France 2, Guillaume Goubert, directeur de La Croix, et Patrick Le Yarrick, directeur du groupe L'Humanité, député européen. Je le disais il y a quelques instants, on a eu une belle séquence de communication du chef de l'État tout au long de cette semaine, et notamment une image que vous avez tous vue, le président de la République signant le décret de la moralisation de la vie publique façon Donald Trump, avec une image vraiment instable, très amateur. Alix, quel est votre regard, vous, professionnel de l'audiovisuel à France Télévisions, sur cette image bancale?
Alors, je pense que le caméraman aurait dû mettre sa caméra
sur un pied.
Voilà,
c'est le béaba.
Alors, c'est vrai que les Américains...
Mais c'est peut-être un effet de style.
C'est un effet de style. Les Américains savent très bien faire ça. C'est vrai que moi, j'ai vécu aux États-Unis. On voyait en permanence Barack Obama, de manière très décontractée, discuter avec les deux, trois conseillers. On pouvait capter une ou deux phrases clés, le voir signer, Donald Trump dans cette même tradition, c'est aussi faire ce genre de choses. Nous, à l'évidence, il y a encore un petit peu de progrès. Moi, ce qui m'interpelle, plus je vois Emmanuel Macron dans sa pratique du pouvoir, c'est les points de raccord avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, l'Américain, qui était totalement fasciné par les États-Unis. Nicolas Sarkozy, le transgressif. Nicolas Sarkozy, le provocateur, avec des mots qui pouvaient un peu parfois heurter. La dernière sortie d'Emmanuel Macron sur les fainéants, les cyniques. Voilà, donc moi, je trouve qu'il y a vraiment un rapport assez...
Patrick Yarrick, il ne faut pas juste se formaliser sur l'image, il y a aussi le contenu, le message.
Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Alix, mais j'ajouterais, il faut toujours regarder ce qu'il signe, quoi. Parce que la loi de moralisation, dite de moralisation de la vie politique, c'est quand même pas la révolution. Et surtout, ce qui est en train d'arriver, là, c'est quand il veut signer les ordonnances pour détruire le code du travail ou lui porter les coups de canif qu'il veut lui porter, il vaudrait mieux l'empêcher de signer ça. C'est ça, pour moi, le plus important, c'est le contenu de ce qu'il signe.
Alors, une autre image cette semaine, le président de la République recevait à l'Élysée la délégation qui a gagné l'organisation des Jeux Olympiques d'été 2024, et on a pu voir dans la cour de l'Élysée le président de la République accueillir personnellement Nicolas Sarkozy, et puis on l'a vu, Gérard Leclerc également, accueillir François Hollande avec une tape amicale dans le dos. J'avais le sentiment, j'ai peut-être rêvé, que cet été, il y a eu quand même des échanges aigre-doux entre l'ancien président et le nouveau président.
Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisque François Hollande avait dit qu'il l'avait trahi consciencieusement, je crois que c'est le terme qu'il avait employé, et lui-même, il y a quelques jours, Emmanuel Macron avait parlé de ses prédécesseurs comme des feignants, qui n'avaient pas fait les réformes qu'il fallait
donc
faire.
On peut mettre un poignard dans la main.
Voilà, mais derrière ça, il y a ce grand succès pour la République, pour l'Union nationale, qui est le fait que Paris a obtenu les Jeux Olympiques. Et donc voilà, tout le monde a fait bonne figure, tout le monde a mis un mouchoir sur sur ses amertumes, et il y a eu la photo, et ils sont tous très contents, et voilà.
Judith Vintraube, demain et mardi, eh bien, les Républicains En Marche vont se rassembler en séminaire totalement secret, pas de caméraman, pas de journaliste, pour faire du brainstorming, pour faire passer la bonne parole, pour délivrer aux députés novices, eh bien, les éléments de langage. C'est vraiment nécessaire parce que...
Oh là là, les éléments de langage, je crois que ce sera la dernière étape. Et encore, s'ils parviennent à avancer un peu leur réflexion sur le fond.
Parce qu'il n'y a pas de chef, Richard Ferrand n'a plus la légitimité, et puis il n'y a pas de baron dans ce parti neuf qui n'existe pas.
Non, c'est ça. Le groupe tel qu'il est en roue libre. On a pu admirer d'ailleurs les prestations individuelles diverses et variées de plusieurs députés.
Genre patinage artistique, note technique.
Coup de casque et visite payante de l'Assemblée nationale plutôt. Je pensais plutôt à ça qu'au patinage artistique. Vous voyez. Donc vraiment, c'est un groupe qui n'est pas tenu, qui ne se tient pas pour beaucoup de ses membres. Si je veux pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des députés de La République En Marche, donc il y a vraiment un très très gros travail à faire. Et qui serait d'ailleurs peut-être plus simple à faire pour eux si la politique de l'exécutif était plus lisible, parce que on peut mettre en cause des comportements individuels et même des failles de direction, puisque d'après ce que disent les députés eux-mêmes, Richard Ferrand ne s'intéresse pas à son poste de président. Il aurait bien mieux préféré être ministre.
Il ne l'est plus.
Il ne l'est plus, et à cause de la loi dite de restauration de la confiance dans la vie politique, pour lui rendre son vrai nom. Voilà. Pas de chef, c'est un des problèmes, mais c'est pas le seul. Il y a aussi l'absence de cap clair qui ferait que les députés pourraient décliner le projet gouvernemental dans sa globalité. Emmanuel Macron, il tient beaucoup à ce que tout ce qu'il annonce fasse partie d'un ensemble cohérent. Mais la cohérence, on ne la voit pas suffisamment, et le « on », c'est d'abord les députés En Marche.
Guillaume Hubert, La Croix.
Moi, ce qui me frappe, c'est l'instabilité de la communication. C'est-à-dire qu'on a vécu un été où il s'est tenu quand même assez loin des projecteurs, et là, on a une séquence un peu frénétique de séquences au pluriel qui s'enchaîne très très vite, et je trouve ça un petit peu préoccupant de savoir comment il entend mener les affaires de l'État. Est-ce que c'est avec une certaine réserve, en restant un petit peu en retrait sur le mode Mitterrand, ou est-ce qu'effectivement on est sur le mode Sarkozy, avec une sorte d'omniprésence, avec beaucoup de gestes qui sont souvent sympathiques, parfois un peu ridicules, comme cette séquence de signature que je trouve extraordinairement rétro. Je trouve que pour un homme qui veut incarner la modernité en politique, être derrière ce bureau doré, c'est pas très probant.
Bon, on ne citera pas une marque d'ameublement suédoise pas chère, mais c'est peut-être une possibilité pour faire des économies et raviver un peu le mobilier de l'État au Palais de l'Élysée. 20h40 sur France Info, l'information en 90 secondes, Marc Potvin.
L'État suit de près l'évolution de la tempête tropicale Maria, annonce de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, ce soir. 111 sapeurs-pompiers ont été dépêchés en Guadeloupe. La Guadeloupe qui est désormais en vigilance orange cyclone. Maria approche des Antilles et se renforce. Elle pourrait devenir un ouragan de catégorie 2 ou 3. Un homme en garde à vue ce soir après le meurtre et le viol d'une femme enceinte de 8 mois. Cette femme a été retrouvée morte mercredi à Ustaritz dans les Pyrénées-Atlantiques. Son compagnon l'a découverte, pieds et poings liés. L'homme interpellé aujourd'hui est un SDF qui souffre de graves troubles psychologiques. Des perquisitions sont en cours au Royaume-Uni. Perquisitions dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de vendredi dans le métro de Londres. Les enquêteurs continuent de fouiller une maison de Sunbury. Désormais, ils s'activent aussi du côté de Stanwell. Sunbury et Stanwell se trouvent à proximité de l'aéroport d'Heathrow. La nuit dernière, un deuxième suspect a été interpellé. Madrid fait tout pour empêcher le référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Dernier exemple en date, cette saisie des gendarmes espagnols aujourd'hui. Ils ont mis la main sur plus d'un million de tracts, dépliants et affiches, du matériel de campagne destiné à promouvoir le référendum prévu pour le 1er octobre. Et puis dans une vingtaine de minutes, début de PSG-Lyon, match de clôture de la 6e journée de Ligue 1 de football. Cet après-midi, Marseille s'est imposé 2-0 à Amiens, Metz 1-0 à Angers, Nice a vaincu Rennes 1-0.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info, on continue à parler de l'actualité politique de cette semaine où il était question, bien sûr, des Jeux Olympiques d'été 2024 attribués à la candidature parisienne. Et la question que tout le monde se pose, Patrick Le Yarrick, pouvez-vous y répondre? Est-ce que nous serons dans les clous? La question que se pose, c'est que le budget est estimé à 7 milliards d'euros, si ma mémoire est bonne. Et 6 millions 7.
Un peu moins de 7, oui.
Voilà, mais est-ce qu'on arrivera à être dans les clous? Est-ce que le contribuable n'aura pas à rajouter, comme ce qui s'est passé à Londres, à Athènes, en Chine, bien sûr?
Moi, c'est difficile pour moi de répondre à ça. Je crois que plutôt pas, même si on a déjà pas mal d'équipements. Mais il y a une autre question qui est posée. Est-ce que les Jeux Olympiques, de par les installations qu'on va faire, les constructions qu'on va faire, les équipements supplémentaires qu'on va faire, vont profiter aux populations?
Il y aura des logements.
Oui, mais
le village olympique servira.
Est-ce qu'on pourra y accéder? Parce que à quel prix ceci sera? Parce que je ne doute pas qu'il y ait des logements autour des gares de la grande ceinture de Paris qu'on veut faire, mais à quel prix? Est-ce que ce sont les gens qui habitent là, en Seine-Saint-Denis par exemple, qui pourront accéder à ces logements?
Vous avez vu le président de la République qui veut simplifier les normes, simplifier absolument tout pour avoir plus de logements sociaux.
Bien sûr, tout à fait, c'est ce qu'il a dit. Mais d'un autre côté, ce qu'ils ont annoncé la semaine dernière revient à liquider le service public du logement, les offices HLM. Moi, dans ma ville d'Aubervilliers, s'il faut appliquer ce qu'ils ont annoncé la semaine dernière, nous allons perdre pour l'office municipal HLM 5 millions d'euros, c'est l'équivalent des deux tiers de la masse salariale. Par conséquent, c'est ça qui est posé. Ce sont les deux questions. Moi, je ne sais pas si on va rester dans les clous, mais si c'est utile aux populations, si ça permet l'éducation au sport, si ça permet aux enfants, par exemple, d'accéder à des stades, à des piscines et apprendre à nager, vous savez, c'est une grande question pour les enfants. Là, ce
question
sera bénéfique pour tout le monde.
Aussi. Et la ministre, des Sports, dans l'émission Stade 2, ce soir, a annoncé qu'elle voulait, au même titre que la journée de la musique, une journée du sport. Gérard Leclerc.
Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Voilà, je suis à fond pour les Jeux Olympiques. Je trouve que dans ce pays où il y a une vraie, un pessimisme absolument épouvantable, c'est quelque chose qu'on essayait d'avoir depuis des décennies. C'est bien qu'on les ait, quoi. Voilà. Effectivement, cela dit, il faut faire attention.
Je
mais
dis pas ça
c'est
par
vrai que
pessimisme, Gérard.
L'essentiel des équipements existe déjà. Et ceux qui a trois choses à construire, qui seront d'ailleurs toutes les trois construites en Seine-Saint-Denis, et c'est très bien, parce que c'est un département qui a besoin, c'est le centre aquatique, c'est le village olympique et c'est le centre pour les médias. Voilà, c'est les trois choses à construire. Donc, en principe,
la boxe aussi.
On n'imagine pas que ça puisse provoquer. Il y aura, comme toujours, d'ailleurs, c'est extraordinaire chaque fois qu'il y a un projet, quel qu'il soit, pas seulement en France, partout, on dépasse toujours l'enveloppe qui était prévue au départ. Donc là, ce sera le cas.
Il y aura des transports
comme
en commun, le Grand Paris,
oui,
le nouveau
ça, Grand
métro,
Paris, ça avait
etc.
été décidé avant. Attendez, voilà. Ça n'a rien. C'est pas dans l'enveloppe. C'est pas dans l'enveloppe des 6 milliards 7 qui est prévu. Normalement, on devrait pouvoir à peu près tenir cette enveloppe, et donc je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et
Alex
en plus, c'est surtout une bonne nouvelle pour la Seine-Saint-Denis, puisqu'ils vont vraiment être au cœur de ces Jeux Olympiques.
Il faudra tenir, parce qu'on a quand même un peu fait campagne sur le fait qu'on allait tenir le budget.
Ah oui.
Un budget un peu low cost. Effectivement, il y a visiblement, d'après ce qu'ils disent, que 5% des infrastructures qui devront sortir de terre, et puis la chose la plus compliquée qui sont les transports, ça aussi, c'est des choses qui ne sont pas dans le budget. Mais à mon avis, quand on voit que Tokyo, ça se passe dans 3 ans, ils ont déjà,
2020.
Ils avaient prévu 6 milliards d'euros à peu près comme nous, et finalement aujourd'hui ils en sont à 13 milliards. En fait, en clair, depuis 40 ans, aucun budget
depuis
des JO d'été,
oui.
Effectivement, ils ont tous été largement dépassés, Montréal, Barcelone, voilà. Donc je ne sais pas pourquoi nous, on serait plus vertueux. Ça va coûter de l'argent aussi.
Guillaume Gobert, vous avez peut-être vu, comme moi, à Lima, il y avait des sportifs dans la délégation française. Il y avait énormément de politiques. La ville, bien sûr, qui signe, la région, la métropole. Tout le monde essaye de tirer la couverture à lui, mais il va falloir financer. Et là, il y a peut-être tout le monde qui va vouloir partir un petit peu.
Moi, ce que je dirais que la première médaille à gagner, c'est effectivement de réussir à tenir ce pari de faire des jeux bon marché, des jeux raisonnables, des jeux sobres, pas forcément, et qui sont la sobriété peut être heureuse. Donc, je pense que là, il y a vraiment une démonstration à faire. Si la France parvient à faire cette démonstration, ce sera déjà une très belle victoire. Et je pense que c'est absolument nécessaire pour le mouvement olympique, parce que sinon, il n'y aura plus comme candidat que des... On voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de villes qui se sont désistées.
Oui.
Ça a facilité le couronnement de Paris, il faut bien le dire.
Boston, Hambourg.
parce que justement, ils pensaient qu'ils n'allaient pas réussir à tenir des finances raisonnables. Et il est extrêmement important de réussir à le faire, parce que sinon, il n'y aura plus que des modèles genre Sochi, qui était un délire absolu du fait d'un régime extrêmement autoritaire en Russie, qui a abouti à ce qu'on dépense un argent, mais complètement dément. Et si le mouvement olympique veut ne pas être dépendant de ce type de situation, s'il veut aussi faire des jeux dans des endroits plus fréquentables, eh ben, il faut réussir à tenir les budgets.
Alors, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les Jeux paralympiques. Ce sera au mois de septembre. Les Jeux paralympiques, il faut de l'accessibilité. Il faut de l'accessibilité dans les commerces, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les transports en commun. Judith Vintraube, j'ai l'impression que ce problème de l'accessibilité pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, c'est un éternel serpent de mer. On annonce depuis 2005.
Il y a eu une grande loi faite par Jacques Chirac en 2005, qui succède, je crois, à un horizon décennal. Les transports, la totalité des transports en commun devaient être accessibles aux personnes à mobilité réduite en 2015. Finalement. Tout ça a pris du retard. François Hollande a étalé les calendriers dans tous les sens pour les bus, pour les métros. On fait des normes très pesantes pour les bâtiments qui se construisent. Encore que vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez glissé tout à l'heure, Emmanuel Macron a dit il y a trop de normes d'environnement, trop de normes.
2600 pages, je crois, le code de la construction.
Pour les handicapés, alors il faudrait savoir, on va le savoir peut-être rapidement ce qu'il entend par là et par quoi il veut remplacer ces normes. Donc dans le neuf, énormément de normes. Sauf que le 9, c'est 1% du logement. Et dans le reste, l'adaptation aux gens qui ont du mal à se mouvoir est très, très lente. Paris est vraiment à la traîne de tous les autres. Pour me balader un peu dans les capitales européennes ou américaines, où là, ils sont vraiment souvent extrêmement bien adaptés, on est vraiment très en retard.
Guillaume Houbert, la Croix.
Je pense que les Jeux, ce sera quand même l'occasion de faire des progrès, donc c'est bien. Mais par contre, moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les Jeux paralympiques sont 15 jours après les Jeux
Il faut que les délégations partent et d'autres arrivent, qu'on adapte.
Oui, mais franchement, moi, ça me choque, ça me chagrine. Je pense que ça pourrait être en même temps ou au moins se succéder. Là, il va y avoir un délai de 15 jours entre les deux. Je trouve que c'est un peu
triste.
À Londres,
ça a bien marché. Les stades étaient remplis.
Ça a bien marché à
Rio.
Mais ça aurait peut-être encore mieux marché si ça avait été enchaîné. Je trouve que c'est dommage de, il y a sûrement des raisons fortes, j'en doute pas. Mais je trouve que c'est dommage de pas essayer de rapprocher ces deux familles sportives.
Deux compétitions, des sportifs magnifiques. Alors, dans un instant sur France Info, on va évoquer la question internationale, puisque mardi va s'ouvrir à New York la 72e Assemblée Générale des Nations Unies. Tous les chefs d'État seront présents, notamment les deux petits nouveaux, l'Américain Donald Trump, le Français Emmanuel Macron. On y revient dans un instant, dans 90 secondes, à 20h50, sur France Info, Marc Potvin.
Lou Bureau est rentré en France ce matin, mais il n'en a pas fini avec la justice turque. Le journaliste est toujours accusé d'appartenir à une organisation terroriste, un groupe de combattants kurdes syriens qu'il a suivi lors d'un reportage. Le ministre de l'Intérieur affiche sa différence sur la question de la PMA pour toutes. Gérard Collomb estime que la priorité, ce n'est pas d'élargir l'accès à la procréation médicalement assistée, ce serait plutôt de résoudre le problème du chômage. Le débat sur l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux lesbiennes devraient s'ouvrir l'année prochaine. Pierre Laurent réclame des Jeux Olympiques à taille humaine à Paris. Dans son discours de clôture à la Fête de l'Humanité, le secrétaire national du PCF est revenu sur les JO de 2024. « Nous allons nous battre pour que ces Jeux rompent avec la dérive du gigantisme et de l'argent roi ». Fin de citation. Au Royaume-Uni, deux hommes sont entre les mains des enquêteurs. Ce soir, ils ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de vendredi à Londres. Le premier, âgé de 18 ans, a été interpellé hier matin. L'autre, âgé de 21 ans, l'a été la nuit dernière. Le niveau d'alerte terroriste a été abaissé au Royaume-Uni, conséquence de l'avancée des investigations. Et puis en tennis, la Belgique rejoint la France en finale de la Coupe Davis. Les Belges se sont qualifiés au détriment des Australiens. Les Français doivent leur qualification à Joe Wilfried Tsonga. Il a apporté le point de la victoire contre la Serbie. Le Manceau a remporté son match face à Dusan Lajovic. Victoire en 4-7, 2-6, 6-2, 7-6, 6-2.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info avec Judith Vintrop, Gérard Leclerc, Alix Bouyaguet, Guillaume Goubert, Patrick Le Hiaric. Et cette question, est-ce que l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui débute ce mardi, cette grand-messe a-t-elle encore un intérêt? Tous les chefs d'État vont se succéder à la tribune pour des discours écrits, convenus, avec des belles promesses. Est-ce que cela a un intérêt, Patrick Le Hiaric?
La façon dont ça se passe, évidemment, c'est difficilement acceptable, ce petit défilé de cours au texte, parce qu'en plus, ils ont un temps de parole très limité. Ceci dit, il y a autour de cela
des rencontres
bilatérales, multilatérales, et qui sont extrêmement importantes. Donc, il ne faut pas être contre l'Assemblée générale. C'est au contraire, il faudrait créer les conditions pour que l'Assemblée générale ait plus de poids. Parce que le Conseil de sécurité, aujourd'hui, tel qu'il est composé, qui est issu de la Seconde Guerre mondiale, des suites de la Seconde Guerre mondiale, n'est plus du tout adapté. Parce qu'aujourd'hui, on a des grands pays qui comptent sur la scène internationale et qui ne sont pas dans le Conseil de sécurité, même s'il y a des pays qui tournent. Donc, moi, je ne suis pas contre le fait qu'existe l'Assemblée nationale. Je suis pour qu'elle ait plus de poids.
Gérard Leclerc, les sujets de discussion ne manquent pas cette année. Le conflit syrien, la Libye, les migrants. Il y a la Corée du Nord qui inquiète, ce bras de fer États-Unis-Corée du Nord. Et puis, il y a aussi la Russie qui fait des manœuvres en ce moment.
On peut se désoler de la lourdeur, de l'inefficacité, etc. Mais en même temps, enfin, j'ose espérer que personne n'imagine de supprimer les Nations Unies. Bien sûr qu'il faut que ça continue à exister. Bien sûr qu'il faudrait que... Je suis fait d'accord avec ce qu'a dit Patrick Le Hiaric. Bien sûr qu'il faudrait davantage de poids à la communauté internationale pour pouvoir intervenir. Mais une fois qu'on a dit ça, malheureusement, la réalité, c'est que vous avez des intérêts différents, c'est que vous avez des blocs, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Amérique, vous avez... L'Europe, malheureuse, qui n'existe pas beaucoup. Mais donc, voilà, on ne peut que souhaiter, effectivement, donner davantage de pouvoir, davantage de moyens de pression à l'ensemble de la communauté internationale, donc représentée par les Nations Unies, face aux égoïsmes et face à la folie d'un certain nombre d'États. Mais une fois qu'on a dit ça, malheureusement, ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick.
Alix Bouyaguet.
C'est un peu désespérant, mais il faut, en tout cas, il ne faut pas condamner les Nations Unies.
Juste avant cette réunion, l'Iran dit aujourd'hui ne pas vouloir céder aux pressions de dirigeants américains corrompus, malhonnêtes et menteurs.
Oui, ça va mettre un peu
d'épices.
Voilà. Et c'est vrai que les regards seront beaucoup tournés vers Donald Trump, vers son comportement. C'est vrai que jusqu'à présent, il est peu apte au dialogue collectif. Voilà. Mais en même temps, il bouge un peu aussi. Par exemple, sur la Corée du Nord, il s'est battu pour faire adopter un certain nombre de résolutions qui ont été adoptées d'ailleurs à l'unanimité. Donc voilà. Petit nouveau Donald Trump scruté jusqu'au bout. Nouveau aussi.
Là, il sera obligé de lire un texte écrit par les militaires, par la Maison Blanche, par ses conseillers diplomatiques.
On le disait tout à l'heure, ce qui se passe en coulisses. Effectivement, Charles Ludet, c'est toujours mieux que les gens se croisent que ne se croisent pas.
Guillaume Goubert.
C'est pas une obligation statutaire d'aller faire un discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Je veux dire, Donald Trump aurait très bien pu ne pas y aller. Avant son élection, il a dit des choses assez méchantes sur l'ONU, en disant que c'était un club où on bavardait, où on prenait du bon temps, quelque chose comme ça. Finalement, une fois en fonction, il estime qu'il est nécessaire de venir prononcer un discours, défendre une politique. Il est aussi à New York ces jours-ci pour des contacts, comme disait Patrick tout à l'heure, des contacts bilatéraux. Il va voir Emmanuel Macron, notamment demain, je crois. Ça prouve, pour aller dans le même sens que mes camarades, que l'ONU sert à quelque chose. Elle fonctionne pas très bien. On va pas prétendre le contraire, mais elle sert vraiment à quelque chose. C'est le seul lieu où il peut vraiment y avoir un échange multilatéral entre nations où chacun peut essayer de faire entendre son point de vue.
Et parmi les rencontres, on peut imaginer une rencontre entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan, la Turquie qui...
C'est prévu, je crois.
Voilà, il y a toujours un bras de fer avec notamment des journalistes emprisonnés.
Oui, donc la libération de Jean-Loup Bureau, et qui heureusement à retrouver la France.
Jean-Yves Le Drian est allé serrer la main du président Erdogan juste avant, et on voyait quand même, on le voit sur les images, que M. Le Drian est assez crispé comme le président turc.
Écoutez, la compétence et les qualités de Jean-Yves Le Drian ont été amplement démontrées sous le précédent quinquennat. Je ne suis pas très surprise qu'il ait joué un rôle majeur dans cette libération.
Alors on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Non, bien sûr,
quel échange il peut y avoir derrière cette libération de journalistes. Mais les journalistes, en tous les cas, sont une monnaie d'échange, un moyen de chantage, entre guillemets, pour le président turc. Rapidement.
Oui, certainement. C'est un des pays où les journalistes sont dans la situation la plus difficile, y compris des journalistes étrangers. Bon, la libération du bureau vient peut-être en partie du fait que Erdogan ne peut pas être brouillé avec tout le monde, comme il est très brouillé avec l'Allemagne. Peut-être qu'il choisit de faire un geste vis-à-vis de la France.
Merci, mesdames, messieurs, Judith Vintrop, Gérard Leclerc, Alix Bouillaguet, Guillaume Goubert, Patrick Le Yarrick, d'être venus sur ce plateau des Informés. Les Informés reviennent demain, bien sûr, à 20h sur France Info avec Jean-Mathieu Pernin. Bonne soirée, à demain pour les Informés.